Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jérôme Dédéian, associé de toutsurmesfinances.com, président de Bon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Je vous ai coupé la parole visiblement, Jean-Marc, sur les impôts. Je ne sais plus ce que vous vouliez rajouter, allez-y.
Non mais... État des finances publiques, donc oui. Charge d'intérêt due à la hausse des taux d'intérêt à long terme, hein, plus 20 milliards sur 3 ans. Vous regardez la dette, vous regardez les endettements, vous comparez l'endettement public de la France à celui de ses voisins. Pendant le Covid, ça a plus augmenté. Ça se baisse, ça s'est moins tassé ces deux dernières années. Donc on a une vraie spécificité française, on a un effet cliquet sur la dette. Quand on a une crise, ça monte et ensuite ça remonte, ça redescend pratiquement pas, alors que dans d'autres pays ça peut redescendre. En France, on ne sait pas faire ça.
Même le déficit ne baisse plus.
Voilà, quand la zone euro a été créée, la Belgique avait un déficit qui faisait une dette publique, hein, je crois, qui faisait 120 points de PIB. La France était à un peu moins de 60. Maintenant, la France a une dette publique qui dépasse celle de la Belgique. Hein. Donc, on a vraiment une spécificité française de la dette là-dessus. Alors, on peut se dire ça va durer éternellement. On va trouver des prêteurs éternellement. Moi, je pense qu'on va pas trouver des prêteurs éternellement. En tout cas, il faudra leur montrer qu'ils ont une chance d'être remboursés raisonnablement.
Vous pensez un jour que voilà. Le fameux « ça va mal finir », vous pensez que c'est vrai ? Ça va mal finir.
Non,
ça... c'est ce qu'écrivait Gaspard Koenig dans les Échos cette semaine.
Oui.
Ça m'a surpris de lui.
Oui. Ça va pas forcément mal finir, mais il y a un moment où il va y avoir une forte tension. Donc, une dépense publique qui augmente à cause des taux d'intérêt, on peut rien y faire. Est-ce qu'on va réduire d'autres dépenses en échange en France, on ne sait pas faire. Et ça, c'est ce que montre clairement l'histoire depuis des décennies.
Vous avez raison.
On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et je pense que c'est lié à des problèmes, à une question culturelle profonde. Je pense que quand on touche à la dépense publique, on touche à l'État. Et l'État, c'est le cœur d'identité française. Donc je pense que c'est extrêmement difficile pour des raisons culturelles de réduire les dépenses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la marge. Au contraire, il y a beaucoup de marge, comme le disait Jérôme tout à l'heure. Vous ne pouvez pas réduire les dépenses. Il ne faut pas augmenter la dette trop parce qu'il y a un moment où ça va poser problème. Il y a une seule solution, c'est la hausse d'impôts. Et donc la question, c'est de savoir quand et lesquels.
Jérôme, Dédéian.
Alors moi, je vais prendre l'inverse.
Vous tremblez
parce qu'on n'a jamais réussi à le faire sur dizaines d'années, qu'il ne faut pas essayer. C'est mon incorrigible optimiste.
C'est comme la simplification.
Et en fait,
on n'arrivera pas à faire 30 milliards en un an.
Je ne suis pas sûr. En fait,
je ne suis pas sûr qu'on arrive que quoi.
Moi, je me demande toujours pourquoi on n'essaye pas l'intelligence collective. Pourquoi on n'essaye pas de demander aux Français, on ne lance pas un concours, un appel à idées, en disant comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité de nos services publics tout en générant X milliards, on file un objectif d'économie. Et puis on laisse la créativité...
Une boîte à idées nationale.
Ouais. Et en fait, ça permettrait de regarder ce qui fait consensus, pas consensus.
Écrivez-moi là, d'ici la fin de l'émission si vous avez des idées. Moi, je dis ça aux gens qui nous entendent.
Vous allez être content.
Je vais commencer, le grand débat, la grande consultation, je ne sais pas comment on va l'appeler.
Alors, au commencement étaient tous les services de l'État qui font moins bien que ce qu'on pourrait faire si on le mettait dans le privé. Je ne parle pas des fonctions régaliennes, bien sûr. Hein, pas du tout le régalien, mais il y a énormément de choses qui pourraient vraiment être sorties. Alors il y en a une qui pourrait vraiment être largement plus sortie, autonomie, etc., qui s'appelle l'éducation nationale, qui est un des premiers postes de dépenses de l'État. Je vais me faire des amis en disant ça, mais...
Mettez d'autres mots qu'autonomie, voilà. Vous pensez quoi, éducation nationale,
Moi je pense qu'il faut dynamiter l'éducation nationale. Si elle fonctionnait bien, et de façon satisfaisante pour tout le monde, les corps enseignants, les élèves, le niveau général, etc., on s'en serait rendu compte. D'accord.
Oui.
Non, donc c'est pas le cas. On constate que c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il faut faire autrement et que quand vous avez un sujet aussi irréformable entre guillemets, en fait, il faut le dynamiter de l'extérieur. Donc ça s'appelle le soutien, l'autonomie des établissements, le soutien hors contrat, pour jouer la théorie du monopole contestable, pour que le mammouth, se sentant un peu piqué par l'extérieur, se réforme et que chaque établissement fasse son projet pédagogique, ce qui n'empêche pas le contrôle, bien sûr, éviter les dérives, etc., mais lui laisser l'autonomie et arrêter de faire des circulaires épaisses comme ça, de ne pas savoir combien on a de fonctionnaires dans le ministère, etc.
Bon, d'accord.
Mais ça reste quand même très subventionné, dans tous les cas.
Mais il y a de la dépense, évidemment. Mais on pourrait faire 257 fois plus efficace en termes de qualité de l'éducation reçue par nos élèves, ou de l'enseignement plutôt reçu par nos élèves, pour probablement moins d'argent.
On échappera aux hausses d'impôts, à votre avis, Mathieu ?
Je ne crois pas. Je pense que d'ici à 2027, pour le coup, ça va être quand même très compliqué pour le gouvernement d'en faire. Parce qu'ils sont tellement cranté le discours sur « on ne les augmentera pas ». Et on remboursera, ce qui était quand même un peu une fiction, cette histoire, on va rembourser la dette par la croissance. On voit bien que c'était un peu la formule magique, quoi. C'est comme ça.
Je rappelle juste que Nicolas Sarkozy, pendant les trois premières années de son mandat de président, n'a cessé de dire je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts. Et quand vous voyez ce qu'il a fait en 2011, il y a des moments où.
Pour rappeler que les hausses d'impôts, ça commence sous Fillon.
Le gouvernement Fillon avant. Fiscal, il commence effectivement à partir de 2012 et puis qui est poursuivi sous Hollande.
Sous Hollande, il est très doué, l'austérité fiscale,
où il y a eu un choc très, très massif. Et d'ailleurs, c'est le moment, on en parle assez peu, où le pouvoir d'achat des ménages a le plus baissé, plus que maintenant, beaucoup plus.
C'est là où il y a le ras-le-bol fiscal,
vous voyez, les prélèvements sur les ménages augmentent de façon.
Et on a augmenté les impôts sans réduire les dépenses.
Et sans. Voilà,
Jérôme,
il y a
eu Jean-Marc.
Il y a eu la réduction sur les dépenses des collectivités locales.
Je suis la boîte à idées.
Il y a eu le fait que l'indice fonction publique n'avait pas été revalorisé. Bon, il y a d'autres trucs, mais il y a eu sous-indexation de certaines prestations aussi. Alors, juste dans le cadrage macro, on voit bien que ça passe pas. Ça a été dit, mais on peut pas revenir en dessous de 3% sans augmenter les impôts, avec une croissance qui n'existera pas, ou en tout cas qui est beaucoup plus. On voit d'ailleurs le gouvernement a révisé, on commence à le voir, révise sa trajectoire de croissance. Je pense qu'on reverra ça aussi pour les années suivantes, parce que quand vous voyez.
Peut-être dès cette année. Il y en a comme beaucoup programme ici. Je pense que le 1%, c'est
déjà le 1%, vous voyez les 3%.
C'est 0,8 à vous.
Alors 0,8, mais on est dans un exercice de prévision qui doit nous conduire peut-être à une révision à la baisse. Donc je ne vais pas vous dire le chiffre.
Quand j'étais l'élève de Mathieu, il m'a appris ce que c'était que l'acquis de croissance.
L'acquis
de croissance, c'est quand vous partez en
cours. On est à 0,1, là, c'est pas terrible.
Vous avez du
on
mal.
On a commencé, et si je me. On est à 0,1 d'acquis début 2024, je crois.
C'est ça, on est à 0,1. Donc ça veut dire que même avec. Enfin bon, le 0,8 devient presque compliqué. Le 1 est quasiment inatteignable. Sauf s'il y avait des révisions de comptes.
C'est pour ça que ça sent à planer la baisse de dépenses sociales
D'ailleurs, il y a une réponse sur les 10 milliards, mais ce que je veux dire, c'est que dans le programme pluriannuel, qui est le retour à moins de 3% de déficit public, ça tape sur une croissance qui est autour, je crois, de mémoire, entre 1,7 et 1,8 par an. Pour les années d'après.
Absolument.
Or, je ne vois pas quels sont les leviers qui vont permettre de conduire à 1,7, 1,8, sauf s'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout anticipé. Mais bref. Donc, on va être amené à réviser à chaque fois cette croissance. Et cette croissance, quand elle est révisée à la baisse, c'est simple. Un point de croissance en moins, c'est, en gros, toute chose égale par ailleurs, un demi-point de déficit public en plus. Parce que la croissance, c'est les assiettes fiscales. C'est ce qui fait les recettes publiques. Donc, si vous avez moins de croissance, vous avez plus de déficit. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, à partir du moment où on va revoir la trajectoire de croissance, se posera la question des déficits. Du côté de la dépense, ça a été bien dit, c'est où est-ce qu'on fait des économies, sachant que structurellement, on va être amené à les augmenter, ces dépenses. Pourquoi ? C'est la transition énergétique. Il y a un rapport, Pisani, Ferry, Mahfouz, qui parle de 67 milliards par an, dont la moitié publique, premièrement. Dépenses de santé, vieillissement de la population. Sécurité, justice, défense. Loi de programmation militaire. Je vois pas comment on passe effectivement à côté du fait d'un moment donné de dire on va devoir trouver des nouvelles ressources fiscales et donc ils vont devoir augmenter les prélèvements. Ok, c'est pas très agréable, c'est pas un très bon signal, mais je vois pas comment on boucle budgétairement, sachant qu'effectivement la France commence à être quand même en queue de peloton sur les questions de finances publiques. C'était moins le cas, je trouve, avant. Là aujourd'hui, ça devient une inquiétude.
C'est là, on voit que l'économie est stupide.
Et surtout la remontée des taux. Pose un certain nombre de questions. Pour le moment, on a quand même une faveur des marchés qui est assez forte. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le spread vis-à-vis de l'Allemagne reste assez faible. Mais malgré tout, il va falloir montrer qu'on a une certaine crédibilité. Et je pense aussi pour les investisseurs, ce qui est inquiétant, c'est au-delà de 2027, c'est après 2027. Parce qu'il y a une élection en 2027. Et on voit que déjà, l'état des finances publiques n'est pas extraordinaire. Mais si un candidat qui était, on va dire, aux extrêmes, l'emportait, on voit que cette question des finances publiques deviendra encore plus importante. Et je ne suis pas sûr que les marchés feraient aussi confiance. Et dernier point.
On avance.
Non, mais c'est une question que Olivier Blanchard a pas mal traitée hein, aujourd'hui. C'est qu'on a bénéficié pendant longtemps d'un écart critique qui était positif. C'est-à-dire que la croissance était bien supérieure au taux d'intérêt.
Oui.
Et qu'aujourd'hui, cette histoire-là est peut-être terminée. Et que ça change tout en termes de macroéconomie.
Ça change tout.
Et en termes de soutenabilité des finances publiques. Si vous avez un G-R. Là, qui était très positif, devient négatif, alors à ce moment-là, on
R, passe dans une... R, c'est les taux, G, c'est la croissance.
Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on passerait dans un effet de boule de neige de la dette.
Ah oui.
Et donc, c'est pas du tout la même soutenabilité. Et donc, vous devez pas avoir le même ajustement sur les finances publiques.
On l'a dit mille fois.
Et donc, la cure d'austérité, probablement, est devant nous. Et...
Oui.
Et je ne crois pas qu'elle sera que par les dépenses, ça c'est sûr.
On a dit souvent que c'était quand même la zone de bascule où le terme de soutenabilité de la dette devenait un sujet. Je vous donne juste quelques remontées. Alors, pour réduire la dette, il faut remplacer Manu par Milei. Bon, voilà. Il faut privatiser la SNCF tout de suite. Il faut demander à l'IA de simplifier les codes et les lois. La simplification est mise en avant comme une solution d'économie de dépenses, par exemple. Et puis j'en ai sûrement d'autres.
Et ça, c'est utilisé dans un certain nombre de services publics. Le problème, c'est que la dépense publique en France, elle est pratiquement à 50% de la dépense sociale. Et beaucoup de retraites et de santé dedans. Après, vous avez la défense.
On est à plus de 50% de dépenses sociales.
Non.
On est à 850 milliards de dépenses sociales.
Et les gros blocs, c'est la retraite et la santé qui sont mutualisés. On a un poids de la défense qui est supérieur au reste parce qu'on a aussi une armée, une arme nucléaire, etc.
Et il ne faut pas se relâcher.
Et on a aussi une démographie avec plus de jeunes. Et vous regardez, y compris sur l'éducation nationale, même s'il y a plein de problèmes dans l'éducation nationale, la dépense par élève n'est pas supérieure à nos voisins. Donc il y a plein de choses là-dessus. Donc ça va être très difficile de faire des économies structurelles qui font pas mal.
Ah ben ça, c'est clair. On voit bien qu'à chaque fois qu'on touche quelque chose, il y a une douleur quelque part. Vous avez
bien
vu
sûr,
là.
Il n'y a pas de trésor.
C'est l'émotion sur les 900 millions qu'on met sur les d'économies sur l'enseignement supérieur, par exemple.
Sachant que depuis plus de 20 ans, juste un mot, sachant que depuis plus de 20 ans, on pratique le rabot.
Oui, mais ça.
Et donc que ça devient très difficile.
Non, mais le temps
plus
du rabot,
on a raboté, moins il y a de choses à raboter.
On est à l'os à plein d'endroits. Ouais, on a pu passer le rabot. Et en fait, il faut changer de paradigme. Et c'est ça qui est très difficile culturellement.
La réalité, c'est qu'on n'est pas délirant en termes de dépenses d'État en France.
Non, pas du tout.
Ce qui nous différencie des autres pays, c'est la dépense sociale. Il faut travailler 45 heures par semaine et mettre la retraite à 67 ans, me dit cet auditeur. Bon, voilà.
C'est comme si c'était fait.
Bah oui.
Il faut être élu. Alors,
ça nous emmène tout droit à la CADES.
Oui, alors vous, on va faire la CADES.
Ça nous emmène tout droit à la CADES.
Des députés lancent des auditions, ils veulent comprendre comment est gérée la dette sociale en France. Et ils rendront des conclusions en juin. Moi, je croyais que ces gens en avaient une petite idée, car ils sont censés voter les textes de budget de la Sécu tous les ans.
Alors, moi, j'ai pour ces députés un truc à faire assez simple, c'est d'aller sur le site de la CADES, qui est très bien fait. Vous avez ce schéma. Je ne sais pas si on peut le voir là. Ça, c'est le schéma de comment fonctionne la CADES. Et vous partez de la loi de financement, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et puis vous dérivez jusqu'à son fonctionnement, etc. Et en fait, on a un exemple typiquement français ici, magnifique, car quand vous lisez le site de la CADES, c'est magnifiquement technocratique. C'est très précis, c'est très bien fait, mais c'est magnifiquement technocratique, puisque ça dit que toute l'action de la CADES est faite pour que sa signature soit respectée par les marchés. Et on se rend compte qu'on a à la CADES des émetteurs de dettes publiques qui sont au moins aussi doués que ceux de l'agence France Trésor.
Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème.
Vraiment remarquable. C'est assez simple, le schéma, il n'est pas compliqué à comprendre. Et alors, j'ironisais à la création de la CADES il y a quelques dizaines d'années, 20 ans.
La CADES est créée en 1996 pour 13 ans.
Oui,
voilà, c'est ça.
Elle devait être bouclée en 2009, on est en 2024 et personne ne songe à la boucler.
Elle a été prolongée jusqu'à 2033. Hein.
Oui. On est en train de mettre un tas de sable qui va devenir la dune du Pila ou le désert du Sahara sous le tapis. C'est-à-dire qu'on est en train de financer le déficit lié à nos vacances d'été par une dette long terme. Voilà, c'est comme si je dépensais trop d'argent cette année, moi ménage. Et que mon déficit, en fait, je le planquais et je le recyclais en dette long terme. Donc, je finance du court terme le déficit de nos prestations sociales par de la dette long terme. C'est ça le principe de la CADES. Elle devait être là pour l'amortir, c'est-à-dire faire en sorte d'être une structure de déficience temporaire qui permettait de
dévacuer. C'est le CDR de la Sécu.
Voilà, donc on mettait sous le tapis, mais on espérait bien qu'on arrivait à passer l'aspirateur et que petit à petit, on allait faire diminuer le tas de sable qu'on avait planqué et jusqu'à sa propre auto-sabordage une fois qu'on était revenu à un excédent primaire de nos dépenses sociales. On constate que ce n'est pas le cas, et donc ça fonctionne remarquablement sur le plan technique.
Ah oui,
puisque
très bien géré.
En fait,
ils ont, grâce au trésor de guerre qu'ils accumulent, ce qu'ils empruntent, la qualité de la signature et la qualité de leur gestion financière, en fait, ils empruntent moins cher que ce que leur rapporte leur placement. C'est ça qui se passe. Et donc, ils arrivent, vous regardez les chiffres de l'année dernière, ils arrivent à amortir un petit peu de cette dette sociale. Alors, elle a quand même enflé au fil du temps, hein, puisque ils ont traité depuis leur création 350 milliards, à peu près, 340 milliards.
On va être à 140 milliards de
stock. Et on est à 200 quelque chose.
On est à plus de 200.
Ouais, on est à plus de 200. Ouais. C'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans les trucs. Bon. Ah. Donc, c'est remarquablement fait. C'est probablement géré par des gens qui sont des cadors, qui sont de très bons techniciens, etc. Mais ça n'empêche que c'est un système tout à fait français, qui repose sur la confiance que la signature de la CADES vis-à-vis des investisseurs étrangers peut recueillir parce qu'elle est garantie par l'État, et que ça ne règle pas le problème de fond, qui est que nous avons des dépenses sociales en déficit.
Ça nous ramène à RSG pour la soutenabilité, parce que la signature de la France, il ne faut pas qu'elle se dégrade. Hein.
Exactement. En tout cas, bon, pour nos députés et pour nos auditeurs, allez voir le petit schéma qui explique comment ça fonctionne. C'est très bien fait.
Je ne vais pas aller voir ce matin, mais je ne l'avais pas vu, mais j'irai regarder. Vous voulez réagir à la CADES, vous? Non. On a à peu près tout dit.
Non, c'est un truc délirant, quoi.
Hein, oui, ben c'est
un truc délirant. On a cantonné la dette sociale en disant on en a pour une bonne dizaine d'années. Voilà, maintenant on va en être à au moins 40 ans et on sait qu'on va continuer de remplir à nouveau. Donc on a monté un très beau, une très belle pompe.
Une très belle usine.
Une très belle pompe, une très belle usine.
Je me souviens du débat qui avait vu le jour au moment où on pensait peut-être qu'on arriverait à y mettre fin. Tout le monde se demandait, alors qu'est-ce qu'on va faire de la CRDS qui a été créée justement?
Oui, il y a eu tout un débat. Il y a eu à plusieurs reprises, il y a eu un débat où on a espéré qu'on allait terminer d'éteindre cette...
Normalement, la CRDS s'éteignait aussi.
La dette sociale, et puis qu'on allait pouvoir récupérer cet argent pour financer autre chose, notamment la dépendance. Il y avait eu un gros espoir sur la dépendance. Puis, blouf, tout ça, et
CRDS
en fumée.
Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est quand même que la CADES, elle émet de la dette chaque année. Hein. Elle émet pas mal de dettes. Et que, évidemment, elle sort d'une période monstrueusement favorable depuis 2008, où elle empruntait pas cher du tout. Donc faire de la transformation en empruntant pas cher du tout, compte tenu des niveaux des taux d'intérêt, et le placer pour que ça rapporte plus, pour essayer de dégager un excédent, pour apurer une partie de ce passif, c'était possible. On rentre exactement comme pour la dette publique classique, on rentre dans une période où, compte tenu du niveau des taux d'intérêt, ça va commencer à être beaucoup plus compliqué de placer plus cher que le coût d'emprunt qu'on a, surtout si la signature de la France commence à être un tout petit peu moins valoriser, puisque tout ça dépend évidemment du backup que fait l'État sur la signature de la CADES, qui est un émetteur public en fait.
J'étais pas sûr d'en parler, mais l'inflation est passée sous les 3% sur 12 mois, et vous me disiez, Mathieu, si, ça, il faut en dire un mot, c'est important.
Bah oui, c'est important sur plein de points de vue. C'est important parce qu'effectivement, on a quand même un reflux de l'inflation qui est assez net. Hein.
Assez net.
On passe en dessous des 3%, donc ça pose la question de la trajectoire sur l'année 2024, hein, mais a priori, on va revenir quand même assez rapidement autour des 2%. C'est la première chose, mais ça pose la question aussi des taux dont on parlait. C'est-à-dire que ce qui compte aussi dans une économie, c'est les taux nominaux, mais aussi les taux réels. Or, effectivement, quand vous avez des taux, la BCE, qui sont à 4,5%, mais avec une inflation qui est en dessous de 3%, du coup, le taux réel redevient positif. Avant, les taux étaient à 4,5%, mais avec une inflation qui était largement supérieure à 4,5%. Et donc, quand on regarde sur le coût en fait de la dette, c'est important parce que vous avez à la fois le prix, c'est la valeur que vous donnez en fait à votre valeur ajoutée. Hein, là, c'est la consommation, mais aussi le taux que vous allez payer. Et donc, ce différentiel de taux réel, il est important. Et donc, ça pose la question de la vitesse ou pas d'ajustement des taux nominaux derrière. C'est-à-dire, à quelle vitesse les taux directeurs vont baisser? Est-ce que du coup, on va avoir un alignement assez rapide des taux directeurs sur cette baisse de l'inflation ou pas? Parce que, effectivement, ça coûte cher, en réalité. Alors, c'est mieux pour l'épargnant, dans ce cas-là.
Ah bah oui,
parce que forcément,
l'épargnant qui a un livret A à 3,
le coup, il a son rendement réel qui redevient
rendement réel positif.
Ce qui peut être aussi un appel d'air pour l'épargne, hein, ce qui est déjà un problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a quand même... Enfin, un problème qui a à la fois un avantage, c'est qu'on a beaucoup d'épargne, mais un problème, c'est que les ménages épargnent trop. Et c'est vrai que quand on boucle d'un point de vue purement macro, effectivement, la consommation est très peu dynamique.
Et on a un niveau. Et on peut faire une super politique de l'offre s'il n'y a pas de demande.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, on le voit, là, le différentiel avec les États-Unis est assez extraordinaire sur les taux d'épargne. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs,
c'est 3%
les derniers chiffres qui sont sortis hier, le taux d'épargne au 4e trimestre continue à augmenter. Hein. On est à 18%.
18.
On est monté on est passé de 17,3 à 17,9 en un trimestre. Donc ça veut dire que ça baisse pas du tout. Que historiquement, on était plutôt autour de 15%. Donc on a quand même 3 points de revenus qui sont épargnés chaque trimestre plutôt que d'être consommés. Les États-Unis sont autour de 5%.
Ouais. Je tenais un peu moins même pour la
Ils sont même un peu en dessous. Ouais. Ils ont remangé. Et donc le différentiel de consommation entre les États-Unis et la zone euro, hein, dans son ensemble, ou la France, Et aujourd'hui, il y a presque 10 points d'écart par rapport à fin 2019. Ce qui est énorme en termes de choc macro.
Je vais rajouter deux choses. C'est que le consommateur américain, il continue à consommer plus, mais il consomme avec recours à l'endettement en ce moment. Hein, donc, il faut faire un peu attention à ça. C'est un des moteurs de la consommation américaine. C'est de nouveau le recours à l'endettement, hein, une fois qu'ils ont apuré les soldes sur épargne qu'ils avaient accumulés pendant la pandémie. La deuxième chose, c'est le différentiel de taux entre l'Europe et les États-Unis, la zone euro et les États-Unis. Ça, c'est très important parce que ça, on voit que la locomotive américaine, elle tourne quand même avec un meilleur régime que la locomotive européenne en ce moment, et que on va avoir un sujet d'alignement de rythme de l'adaptation des taux européens directeurs, exactement comme dit Mathieu, au rythme de décélération, parce que si on va trop vite, l'écart de taux sera tel avec les États-Unis que tous nos capitaux vont se barrer aux États-Unis. Et donc moi j'aimerais pas être à la place de Madame Lagarde aujourd'hui sur cette anticipation là, parce que c'est vraiment un point d'inflexion qui peut être très très pénalisant pour notre économie. Ensuite, je voudrais dire un truc simple. On a parlé, c'est bien pour l'épargnant. En fait, en ce moment, c'est génial pour les gens qui conseillent les investisseurs ou qui s'occupent des épargnants, comme mon équipe, parce que on a, avec le niveau des taux d'intérêt d'aujourd'hui, on a, et les perspectives de baisse des taux ou de retour à une politique plus accommodante des banques centrales avec le ralentissement économique, on a ce que j'appelle une option asymétrique en faveur de l'investisseur. C'est très simple. Quand vous achetez des obligations, donc du papier émis par des gens qui vous empruntent.
Des obligations d'entreprise.
Des obligations, notamment privées. Bon, vous avez un taux d'intérêt qui est fixé, donc vous savez, si vous gardez l'obligation jusqu'au bout, vous savez combien vous allez toucher de coupons, d'intérêt, et on vous remboursera le nominal, modulo le risque de crédit. Et donc vous savez que les mouvements de taux affectent le prix de vos obligations sur le marché, mais si vous les gardez jusqu'au bout, vous êtes à l'abri du risque de taux. Et donc, comme il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, vous pouvez aujourd'hui rentrer dans des fonds obligataires qu'on appelle millésimés. Donc on vous dit, ils ont rentré des obligations de tel niveau de risque crédit et leur échéance, leur maturité, c'est 2026, 2027, 2028, 2029. On commence à voir arriver les millésimes 2030. Vous avez dedans, parfois avec une qualité de signature de très bons émetteurs, on est à la limite de l'investment grade, on est dans du high yield vraiment bien cadré. Surtout quand ils sont sélectionnés par des gens, des sociétés de gestion qui font notamment des actions, puisqu'ils sont capables de dire est-ce que le business model de l'émetteur, de l'entreprise qui émet l'obligation, résiste au ralentissement économique pour essayer de minimiser le risque crédit à terme. Vous savez exactement combien de rendement embarqué vous avez, 6,5 brut pour certains fonds aujourd'hui, c'est quand même pas mal, parce que net de frais, ça veut dire que ça vous fait vraiment un rendement positif. Et si jamais il y a ralentissement et que les taux directeurs rebaissent ou qu'il y a une politique plus accommodante de banque centrale, vous aurez une plus-value obligataire que vous pouvez prendre avant l'échéance. Donc, vous êtes floré, vous avez de la garantie si vous allez jusqu'au bout.
C'est win-win, super win.
Ouais, exactement. Option asymétrique en faveur de l'investisseur, option compte tenu de la situation des marchés de taux aujourd'hui. Je trouve que la situation est géniale.
Bon. À condition d'acheter un panier d'obligations et pas des obligations
évidemment
d'une entreprise.
Alors,
parce que
grosse diversification,
avoir du risque de crédit.
Donc, passer par des OPCVM pour avoir beaucoup de lignes, une grosse diversification. Et nous, ce qu'on sélectionne pour nos clients, c'est la façon dont on fait. On n'est pas sûr d'avoir raison, on n'est jamais sûr. Mais on sélectionne des fonds obligataires qui sont gérés par des sociétés de gestion qui ont une activité de gestion action. C'est-à-dire qu'en plus de l'analyse du risque crédit de l'émetteur, elles ont une analyse sur la robustesse du business model de la boîte qui a émis l'obligation dans une perspective de ralentissement économique pour être sûr que le risque crédit est correctement maîtrisé.
Merci mon partenaire patrimoine.
C'est ce qu'il nous reste à faire.
En France, on n'a pas de fonds de pension, mais on a la CADES. Vous voulez dire un mot des prix immobiliers, Jean-Marc, Vittori?
Oui, parce qu'on entend beaucoup de comparaisons en ce moment sur ce qui s'est passé au moment des subprimes.
C'est les notaires INSEE qui ont publié moins 4% dans l'ancien sur un an, inédit depuis 2008-2009.
Voilà. Oui, mais en fait, il faut s'inscrire dans une perspective plus longue. 2008-2009, on avait une baisse, mais c'était reparti ensuite très fort. Je pense qu'on est dans un mouvement long et qu'il faut s'habituer à se mettre dans cette perspective-là. On n'est pas dans la perspective 2008-2009, on est dans la perspective 1990-1992, quand on avait une baisse des prix pendant 7 ans, je le rappelle. Et pourquoi ? Parce que on avait eu un endettement extrêmement fort, excessif, à la fin des années 80, quand on avait la désinflation, donc on avait des taux d'intérêt qui ont beaucoup baissé, et donc les Français qui se sont endettés massivement, on a eu de la spéculation. Alors là, c'est les promoteurs qui se sont retrouvés collés assez dramatiquement, mais on a eu 7 ans de baisse des prix de l'immobilier. Je pense qu'on est dans un cycle long, et il faut se mettre ça dans la tête.
La FNAIM a considéré qu'il y avait encore un potentiel de baisse des prix cette année, entre 6 et 8%.
Mais tout le milieu de l'immobilier a intérêt à essayer de modérer
toujours comme ça.
La crainte.
C'est toujours les pros de l'immobilier qui parlent de l'immobilier pour vous dire ça va bien se passer.
Au début des années 1990, je regardais les annonces immobilières, je pensais pouvoir acquérir, je n'avais pas pu le faire à ce moment-là, sur un arrondissement avec un type de surface. J'ai repéré l'inversion du marché le mois où il s'est produit, en regardant les offres sur, et les professionnels l'ont admis 18 mois plus tard. Oui. Voilà, juste.
Oui. Vous lirez. Non, mais c'est un sujet important.
Ah, mais c'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important.
Parce que, effectivement, ça a des conséquences assez nettes sur la vie des ménages, hein, sur le patrimoine, sur pas mal de choses. C'est vrai que il faut bien avoir en tête la trajectoire des prix de l'immobilier depuis maintenant 25 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on a
une hausse délirante par rapport
à peu près en moyenne,
à la hausse des
par rapport à l'évolution des revenus.
Bah oui, des revenus.
C'est-à-dire que la part dans les le patrimoine foncier, hein, rapporté au revenu nominal, a beaucoup augmenté. Par contre, on voit quand même un vrai retournement aujourd'hui. On parle de 4%, mais ces 4%, il faudrait les regarder aussi au regard de l'inflation, pour le coup. Oui. Ce qui est en réel, c'est
le
beaucoup
prix
plus.
Réel de l'immobilier est
oui,
en net.
Oui, c'est en net, c'est parce que si vous avez eu 10% de hausse des prix de la conso sur le même moment, en réel, ça fait plutôt 15%. Donc l'ajustement est quand même loin d'être négligeable, et je suis d'accord, il est pas terminé, parce que au fond, on a vécu une période très très particulière avec des taux zéro qui ont quand même alimenté ces prix de l'immobilier qui ont généré énormément de liquidités. Aujourd'hui, c'est vrai que justement la question de la politique monétaire est assez décisive, mais
j'allais vous dire que c'est décisif. Si les taux reculaient tout d'un coup relativement fortement, eh ben vous aurez un arrêt de la baisse des prix.
La question peut se poser, mais c'est vrai que c'est d'abord à quel niveau de taux on atterrit, premièrement. Okay. Y a quand même la question des banques et du financement de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de dette quand même qui sont assez élevés sur ces questions immobilières, donc la capacité à s'endetter beaucoup plus est quand même plus limitée. Et puis il y a quand même beaucoup de changements dans le notamment sur le parc immobilier avec la transition écologique, la rénovation, la sortie des FEG. Il se passe quand même beaucoup de choses, mais c'est vrai que le prix de l'immobilier aujourd'hui, quand vous êtes acquéreur, et je pense qu'il y a quand même un point important, c'est que pendant des années, on a anticipé des hausses de prix en disant la pierre, c'est une valeur refuge. Absolument, vous crantez le fait que ça n'est plus une valeur refuge. Je pense que effectivement, pour avoir une dynamique qui soit beaucoup moins positive pour les années à venir, parce que c'était quand même assez autoréalisateur. Hein. On parlait nous de bulle robuste, c'est-à-dire que c'est une forme de bulle parce que les fondamentaux montraient pas des prix aussi élevés, mais en fait, l'autoréalisation en fait fait que les gens continuaient à acquérir même à des prix élevés parce qu'ils avaient des apports importants. Sauf que si vous êtes dans un schéma d'anticipation différent et que les gens intègrent le fait que les prix peuvent baisser, alors à ce moment-là, on peut avoir quand même des choses très différentes. Ce qui, au fond, n'est pas une si mauvaise
oui,
chose
mais
aussi.
On se rend compte que l'offre et la demande ne se peinent à se rencontrer.
Avec des micro-marchés partout.
Meilleur agent dit qu'il faudrait 17% de baisse de prix
oui.
pour retrouver le pouvoir d'achat d'avant la reprise des taux d'intérêt.
Et puis, qui permettrait de régénérer des transactions aussi. Oui. Parce que le blocage de l'immobilier est lié aussi à ces prix qui sont élevés et que
des chiffres
les acquéreurs ne veulent pas accepter des baisses.
Mais c'est ce qui va se produire.
Et c'est quoi donc ?
Il va se produire un ajustement des prix. C'est une évidence. Puisqu'il y aura. Alors, au début, c'est un peu compliqué parce que les gens ont encore le temps de ne pas vendre, etc. Puis quand ils sont coincés et qu'ils ont besoin de leur argent, il finit par y avoir un ajustement de marché puisque l'offre et la demande doivent se rencontrer pour que la transaction ait lieu. Et donc, ça fait baisser les prix, ça va arriver.
La dernière fois, ça a pris 7 ans.
Ouais. Ça a pris 7 ans. Après, il faut se mettre aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pertes pour les propriétaires. Alors, ça dépend à quel moment ils ont acheté parce qu'ils peuvent avoir une moindre plus-value, ce qui est quand même pas la même chose qu'une vraie perte. Mais il y a aussi, faut se mettre du côté des acquéreurs. C'est quand même un problème.
L'immobilier, on est en dessous des 9500 le mètre à Paris. Moi, je crois que je sais pas combien d'années on était au-dessus de 10.
Ouais.
On a 9% de baisse des prix à Lyon en un an, pratiquement 7% en Île-de-France. Mais on voit quand même qu'on a des éléments, 90 à 110 jours pour vendre un bien contre 30 jours en 2021. Oui. On est tombé à 870 000 transactions en 2023. Il y en avait 1 100 000, plus d'un million 100 en 2022. Ouais. Et en fait, tout le monde se dit, j'attends que ça aille mieux. Prend 7 ans.
Il va y avoir de la casse chez les agents immobiliers.
Ah ben ça a commencé.
Ça a déjà commencé.
Et chez les promoteurs, c'est...
Et chez les collectivités locales.
Et du boulot pour les experts, parce que on va pouvoir faire réévaluer tous les biens immobiliers pour baisser leur assiette à l'IFI.
Je ne sais pas combien on a économisé de milliards d'euros depuis une demi-heure. Je n'ai pas réussi à faire le... Tout le monde m'envoie ses idées. Hein.
Ah ben ça, c'est bien. Vous voyez que ça marcherait, une grande consultation citoyenne, au moins chez le public. Voilà.
Sincèrement, quand on vous écoute, on entend chômage, dette, impôts. Vraiment, ça n'incite pas à épargner. Ça n'incite pas à dépenser.
Hein. Ben non, c'est clair.
Bon, enfin, ben, il faut... Stop, on me dit dans l'oreille. Il faut que j'arrête.
Stop, ce qu'il faut... Ce qu'il faut, c'est que la consultation soit au moins dans un premier temps lancée chez les auditeurs des experts.
Allez, ben voilà, mais c'est ce que j'ai fait. Vous continuez tout le week-end à m'envoyer des trucs. Jérôme Dédéian, Mathieu Plane, Jean-Marc Littori, rendez-vous lundi 9h.